vas-y, vas-y.
2 km à pied.
C'est carrément la création d'un jardin à nous tout seuls, toi.
Allez. Alors voilà, on est sur les hauteurs de Saint-Antoine, dans une petite campagne perdue, dans ces endroits un petit peu indécelables des faubourgs de Marseille. Une bastide. S'il n'y a pas de prétention, il y a une sorte d'austérité citadelle accueillante. Voilà.
Salut à tous. La grenouille ne perd pas le nord. C'est en effet au nord de la cité que nous avons provisoirement déménagé à l'occasion de l'ouverture de la Gare Franche, un lieu patiemment aménagé par Vladislav Snorko et le Cosmos Collège. Un lieu de théâtre, mais aussi un jardin où les artistes résidents et les habitants de Saint-Antoine et du Plan d'Aou trouvent le temps et l'espace de se rencontrer et de réinventer le sens du mot culture. Un jardin où l'on passe, où l'on s'arrête quelques instants à l'ombre, où les idées fleurissent, où les projets mûrissent. Un jardin ouvert aux visiteurs et aux voisins. Les voisins et le jardin, c'est l'intitulé de ce 5e plateau de notre série d'émissions Gare des Nords. Et j'ai choisi aujourd'hui, plutôt qu'une longue discussion à table, de vous faire entendre le son de cette Gare Franche au travers de plusieurs petits reportages réalisés dans ce lieu au cours des jours précédents par toute l'équipe de La Grenouille. On va tout d'abord partir pour une visite des différents espaces qui composent cette Gare Franche. Une visite guidée par Géraldine Garnier du Cosmos Collège qui est aussi avec nous sur ce plateau et qui pourra donc compléter ce reportage et le commenter. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
On ne saurait imaginer un jardin sans un jardinier. C'est à la rencontre de Christian, jardinier de la Gare Franche, que je vous propose d'aller ensuite. Et puis, toujours au jardin, nous irons explorer la parcelle qui est cultivée par les femmes du quartier, accompagnée d'Anifa, animatrice du Centre Social Saint-Antoine, des femmes qui participent aussi à des activités de théâtre avec Irina Valipova, comédienne au sein de la troupe du Cosmos Collège, et Nelly Fleischer, réalisatrice et chargée des ateliers de pratique radiophonique à Grenouille. Salut Irina, salut Nelly.
Bonjour Xavier.
Bonjour.
Ensuite, on aura une intervention un peu étrange d'un personnage, un peu étrange lui aussi, Markus Hertz, agent très spécial de l'immobilière Haussmann & Rode, qui nous fera aujourd'hui rencontrer le big boss de ce très curieux projet avec ses maisons qu'on loue à l'heure, tout à l'heure. Mais tout de suite, on se paye une petite visite des lieux avec Géraldine Garnier. C'est un reportage réalisé par Caroline Galmo.
On y va les filles ?
Ouais.
Allez.
Allez-y.
Je vous présente Christian. Vous le connaissez, Christian ?
Alors,
c'est, non, c'est la personne à connaître ici. C'est
d'accord.
Le jardinier et le gardien de ces lieux.
Eh ben, très
voilà.
Bien. D'accord.
Et c'est,
nous, on est à l'école maternelle.
Enseignante à maternelle, toutes les deux.
Et le jardin, c'est...
Ben, c'est l'ensemble, mais ces temps-ci, on s'est plus occupé du chantier.
Enfin, ben, y a du boulot hein, aussi.
Il y avait de l'animation.
Okay. Allons-y. Donc, vous êtes arrivé par là, on va refaire...
Par en haut, l'accès par le plan d'art, on est arrivé.
Ouais, exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette maison, elle est à hauteur du plan d'art, ouais. Alors que l'usine théâtre Christian, est à hauteur de Saint-Antoine, du village.
D'accord.
Et que, en fait, ces deux sites n'ont jamais été reliés par l'histoire.
Et donc là, ils ont fait le lien.
Et voilà, notre idée quand on est arrivé en 2002, c'était de travailler à tendre vers ce trait d'union possible et à inscrire notre travail théâtral dans son quartier, de venir en fait petit à petit nous insérer dans le quartier, nous présenter à nos voisins via nos compétences qui sont finalement artistiques. Donc l'idée c'était de venir un peu comme ça bousculer l'ordinaire des gens, télescoper leur quotidien à travers des actions
apporter
artistiques.
De nouvelles choses.
Voilà. Alors au départ, c'est une usine de construction de fûts métalliques, les usines Galet, avec des conditions de travail très dures. Les gens de Saint-Antoine, tous les vieux, enfin il y a pas mal de vieux de Saint-Antoine qui ont travaillé ici, dans cette usine. D'accord. Et elle a fermé en 1964.
Et depuis, elle est
elle a été rachetée par Meublena.
Ah voilà.
Qui a stocké ses meubles pendant un certain temps. D'accord. Et elle était à l'abandon là depuis au moins 10 ans, je pense. Ouais. Donc Snorko arrive ici, visite ce lieu, en tombe amoureux, se dit c'est super, j'ai vraiment envie de créer mon spectacle. Il lève la tête, il aperçoit cette bastide. Il se trouve qu'elle était également à vendre. Et donc la compagnie de théâtre décide de s'installer ici et d'en faire un lieu pour la troupe. Parce que Snorko, il travaille avec une troupe, c'est-à-dire les mêmes comédiens depuis 20 ans. Des comédiens russes, italiens. Et donc, c'est l'occasion de les accueillir ici, de pouvoir les héberger, de créer le spectacle sur place, et puis d'inviter d'autres compagnies de théâtre ou d'autres disciplines à venir partager ce lieu. Ça a été le cas pour Gaby Farage, qui est en résidence avec nous depuis un an, et qui est logée là, travaille dans le quartier. Lui, pour le coup, c'est pas sur scène, son objet théâtral, mais ça aurait pu être une autre compagnie également. Enfin, voilà. Après, au gré des rencontres, les choses vont se tisser comme ça.
D'accord.
Voilà, donc c'est vrai que...
Le théâtre, et là, c'est un lieu de vie pour regrouper en fonction des gens qui passent.
Voilà, c'est à la fois nos bureaux, et puis c'est l'accueil de résidence d'artistes, une maison.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Celle de la rue, on la voit pas, celle-là.
Non, alors c'est étonnant parce qu'on la voit de partout depuis le quartier, mais en même temps personne ne la connaît.
En voiture, non, pas du tout.
Les habitants, ils l'appellent le château parce que si on fait le tour, vous pouvez apercevoir une tour. En fait, alors cette maison, elle a des fondations du XVIIe siècle. Ça a été un relais de poste, je crois. Tout ce que je vais te dire au niveau historique, oui. Je n'en ai pas la preuve formelle. Hein. donc cette maison. Elle a des fondations du XVIIe siècle. Elle aurait été un relais de poste qui reliait Marseille et Aix. Et puis, ensuite, une campagne marseillaise, la campagne des Sœurs Lyon, qui c'était les familles bourgeoises de Marseille qui avaient toutes leurs campagnes à l'extérieur. Et puis, ensuite, ça aurait été également des dépendances du château de Foresta, puisque le plan d'Aou, c'était le plateau de Foresta, vous devez le savoir. Et il y avait le marquis avec les vignes, avec ses filles, et ici, ça aurait été les dépendances du gardien. Et c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, les gens appellent ce lieu le château. Ça s'est un peu déplacé.
Par rapport au reste.
Ouais.
Ça fait château.
Voilà. Et donc ensuite, ça a été réquisitionné par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque depuis le plateau, on aperçoit tout le... Voilà, il y a un point de vue extraordinaire. À la Libération, ça a été l'un des derniers bastions de l'armée allemande, donc extrêmement bombardé, et notamment cette maison. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont construit le dernier étage et la tour adjacente pour consolider les fondations de la maison. Voilà. On a quelques traces encore de ce passage des bombardements, parce que le cyprès aurait reçu un obus en son centre, ce qui fait qu'il s'est ouvert.
Il s'est écarté.
Voilà.
Pour les vestiges.
Vous pouvez aussi apercevoir les jardins collectifs.
Oui, les fameux jardins.
Les fameux jardins. Donc là, il y a une dizaine de femmes qui, chaque semaine, viennent cultiver. Depuis quelque temps, il y a 3-4 hommes qui ont rejoint, ils ont leur jardin en face,
alors,
en vis-à-vis, parce qu'il n'y avait plus de place ici. D'une part parce qu'il n'y avait plus de place ici, d'autre part parce que dans le jardin, on vient aussi un peu pour discuter, tranquille, on n'a pas forcément envie d'avoir les hommes au milieu. Par contre, là, les jardins sont en train de basculer de l'autre côté du mur, hein. Et viendrait
oui, avec les arceaux de serre là qui sont posés.
Ouais, enfin les arceaux, non, c'est autre chose, c'est bruit. D'accord. Du frigo. Tout ça est très compliqué. Ça, les jardins sont animés par Anifa, donc l'animatrice du centre social.
Ouais.
Et qui fait un travail remarquable, je dois dire, sur ces jardins. Et donc elle c'était aussi tout un questionnement autour de comment
on occupe un on crée de l'espace public dans un espace privé. Comment on s'approprie le théâtre? Comment le jardin peut être un premier pied aussi pour aller dans la salle en bas?
Pour l'instant, c'est le jardin. Et puis,
donc au départ, ces femmes, elles faisaient partie du groupe alphabétisation du centre social. Elles sont venues voir un spectacle proposé à nos voisins ici. Donc c'était une visite guidée scénographiée par Snorko. Puis à l'issue de cette visite, il y a eu une rencontre avec les comédiens. Et puis on a senti qu'elles avaient envie de faire du théâtre, mais que ça ne s'appelle pas du théâtre. Hein. Qu'elles avaient envie après de faire une représentation, mais qu'il n'y ait pas de public. Qu'elles avaient envie de revoir le film, mais qu'il n'y ait pas d'image. Enfin voilà, c'est toute cette complexité-là qu'on aborde aussi. Et donc une comédienne, Vilma Lévy, et une réalisatrice sonore de Radio Grenouille, Nelly Fleischer, on travaillait avec ces femmes pendant 3 mois à partir de recettes de cuisine, donc de leur quotidien, pour glisser vers une proposition théâtrale, vers un engagement du corps, une chorégraphie de la gestuelle des recettes de cuisine. D'accord. Et ça a donné lieu à une petite représentation dans le jardin en mai 2006. Et ça a été vraiment un moment très fort. Et pendant ces rencontres théâtrales, elles nous ont dit « Mais vous avez un jardin, là, il ne sert à rien. Nous, on plante très bien 2-3 aromates. » Et donc, on leur a donné une toute petite parcelle. Et aujourd'hui, c'est devenu ça.
Voilà.
Et parce que Snorko, qui vient de Roubaix et a toute cette culture des jardins ouvriers, avait vraiment envie que ça se passe comme ça dans son lieu. On continue ?
On continue.
Là, ces escaliers ont été créés et c'est vraiment le symbole du trait d'union.
La jonction entre les deux. Et du coup, pour nous, l'arrivée par la cité, plutôt que de passer par en bas.
Voilà. Du coup, là, on a vraiment 2 arrivées sur la gare Franche, par Saint-Antoine et par Plan d'Aou. Une petite allée qui a été créée,
elle est sympa.
Éclairée, avec des lampes récupérées dans l'usine, qui constituent l'éclairage du chemin.
Et après, ça ressort où?
C'est un loup empaillé.
J'ai bien aimé l'autre chien, mais celui-là, sur le coup, là, dans le noir, je n'étais pas prise.
Alors là, on rentre dans les coulisses du spectacle. Et en juin, juillet, c'est fermé. Ce lieu n'est jamais fermé. Depuis 5 ans, il est toujours ouvert. Là, il est sur une ouverture un peu exceptionnelle, événementielle. Oui. Mais en juin, les jardins continuent, le chantier continue, les actions artistiques continuent, avec pas un spectacle dans la salle, mais c'est un lieu, un équipement qu'on a envie de ouvert sur son quartier, dans des logiques aussi permanentes. Hein. Alors bon, ça se construit, c'est long, ça fait 5 ans qu'on y travaille. Et on a encore beaucoup de boulot devant nous.
Pour moi, c'est une surprise, parce que franchement, ça fait que quelques mois que je travaille là.
Ah oui.
Mais je passe et je repasse et je n'avais jamais eu.
Vous n'avez pas de chance, vous avez récupéré les 2 qui sont les plus récentes sur l'école. Donc.
Mais c'est ça qui
coup,
est...
c'est nous les mots.
Ouais, mais c'est ça qui est super sur ce lieu, c'est que c'est... d'une part, c'est une histoire de géographie. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut... peut guider les gens dans un parcours parce qu'ils ne se voient pas ce lieu, et puis c'est un repli. Snorko, il utilise souvent ce mot, on est vraiment dans un repli de la ville là. Le mur, c'est vrai qu'on l'a pas tombé d'un coup, on y ouvre des fenêtres et c'est comme ça qu'on travaille de toute façon.
Géraldine, on vient de t'entendre à l'instant faire une petite visite de l'ensemble des espaces de la gare Franche, de la maison, d'évoquer à l'occasion son histoire, sa longue histoire, de présenter aussi le théâtre qui est en contrebas, plutôt du côté de Saint-Antoine, et le jardin, bien sûr, c'est là où nous sommes d'ailleurs en ce moment pour ce plateau. Un jardin qui fait le lien concrètement, d'ailleurs géographiquement, entre Plan d'Aou, qui est au-dessus, et puis Saint-Antoine, en contrebas, et un jardin qui fait aussi le lien entre les productions du théâtre et puis les habitants qui sont autour dans le quartier, dans les quartiers. C'est un lien qui n'est pas préexistant, c'est pas un lien que vous avez apporté tout préfet et que vous avez imposé, mais au contraire, c'est un lien qui s'est développé au fil des relations avec ces habitants que vous avez inventé ensemble, en fait.
Exactement, en fait, c'est une succession d'évidences, en quelque sorte, ces rencontres qui ont, bah, comme c'était dit dans le reportage, commencé par la rencontre de ces femmes à l'occasion d'une visite guidée du lieu de la gare Franche organisée par Snorco pour nos voisins, qui a, comme ça, de fil en aiguille, basculé vers du théâtre, vers du jardin collectif. Et puis maintenant, ces jardins, c'est à nouveau pour nous l'occasion d'échanger, c'est un support de rencontre pour notamment les comédiens de la compagnie qui sont là pour les boutiques de Canel. Irina en témoignera tout à l'heure puisque ça a été l'occasion pour elle de rencontrer ces femmes, d'échanger, de rire, les pieds dans la terre.
Le jardin, c'est un espace de lien, c'est aussi un espace un peu curieux, un peu paradoxal. On a l'impression qu'il est à moitié en intérieur, à moitié en extérieur. Il y a des portes, des fenêtres qui se baladent au milieu. C'est un peu ça aussi l'idée dans l'aménagement de ce jardin, c'est que c'est quelque chose qui est ni vraiment dehors, ni vraiment dedans, qui est entre le dehors et le dedans.
Pour nous, c'était l'occasion de tester plusieurs choses. C'était comment on peut faire de l'espace public dans un espace privé. Comment on peut traiter la frontière de nos murs en porosité avec le quartier via des jardins sans créer une énième interstice, mais au contraire en cherchant l'intersection, et ça pouvait être ces jardins. Comment travailler ces jardins dans la continuité en fait du paysage à la fois de la gare Franche, à la fois du quartier, à la fois des envies.
Ce jardin, c'est tout sauf un jardin clos, puisqu'il commence déjà à déborder hors les murs. Il y a une nouvelle parcelle qui est en train de se travailler, là, de l'autre côté du mur, du côté du plan d'Ao. Peut-être quelques mots sur la manière, justement, dont il s'étend et dont le territoire est petit à petit étendu autour du jardin initial.
Alors, je pense que ça a été pas mal évoqué dans l'émission hier, dans le cadre du renouvellement urbain et du cadre de vie, toute la part du GPV sur les nouveaux cheminements dans le quartier. Et c'est vrai que ça a été l'occasion de réfléchir avec les bailleurs sociaux, avec les partenaires de la politique de la ville, à comment on peut, toujours dans ces logiques de continuité, proposer du jardin partout dans le quartier et notamment en cheminement d'un futur mail piétonnier qui va traverser Plan d'Aou pour dégringoler jusqu'à Saint-Antoine.
D'ailleurs, pour l'instant, l'escalier qui dégringole jusqu'à Saint-Antoine en partant du plan d'Aou, au fait, c'est une liaison qui n'existait plus entre ces deux zones et que vous avez créée à l'occasion de la mise en place du théâtre.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne sais pas si elle a existé un jour. Oui, sans doute, remarque. Bon, dans une période lointaine, hein, mais depuis que la cité est sortie de terre, je ne suis pas sûre que des liaisons aient été construites directes, puisqu'on, du plan d'Aou pour aller à Saint-Antoine, on doit faire tout le tour par l'avenue de plan d'Aou ou par le boulevard de Tolon. Donc, c'est un lien direct. Ça y est, les portes sont ouvertes.
C'est l'ouverture en grand de la gare Franche. Un jardin, c'est évidemment un jardinier. Là, en l'occurrence, c'est un jardin collectif. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent dedans et qui inventent dedans. Mais il y a aussi une personne qui est quand même essentielle dans ce jardin pour coordonner les choses et puis pour leur donner une impulsion. C'est Christian. Je l'ai rencontré il y a quelques jours. Et on va maintenant visiter avec lui le jardin. Christian, le jardinier.
Alors, bon, je m'appelle Christian, je fais partie de l'équipe de la gare Franche. J'ai connu Vladislav Snorko en amitié sur Saint-Antoine, puisqu'on était de la même région, on a pris un peu des liens d'amitié, puis on s'est liés en discutant. Il m'a amené sur la gare Franche, au départ c'était bénévolat, tranquille, pour remettre un peu le jardin en question, et je vais vous faire visiter ce jardin en question.
On y va.
On y va. Alors bon, c'était un petit jardin vraiment tombé à l'abandon. Il y a des essences principalement méditerranéennes dans ce jardin. À part un peu de buis qui a été rapporté parce que c'est un jardin plus ou moins à la française à l'époque, puisque c'était des nobles qui habitaient cette habitation. Et c'est devenu un peu un jardin commun entre des hommes, des femmes, qui cultivent des légumes, qui se les partagent, qui font de temps en temps un repas à la maison. C'est chouette.
C'est un jardin collectif, mais en même temps, c'est vous qui veillez un peu au grain, quoi.
Je veille un peu au grain, parce que les femmes, les hommes, bon, mais ils ne sont pas présents tous les jours. Donc, s'il faut arroser un peu, je mets un peu la main à la pâte le soir. C'est un petit régal, l'arrosage. Et puis, bon, ben voilà. Alors là, on rencontre des essences méditerranéennes, comme l'imico-coulier, qu'on est bien ombragé. C'est un arbre de Montpellier, qui a été importé par Napoléon sur Montpellier, parce qu'il est très, très ombragé, très dense. Bon, on aime, comme chaque arbre, chaque végétaux ont ses avantages et inconvénients. Voilà. Bon, là, on passe sur le côté jardin homme, où ils cultivent un peu de tournesol, un peu de petits pois, un peu de salade, à côté du bassin de poissons rouges, avec des bambous en fond de bassin. Et puis on continue.
Il y a le jardin des hommes et le jardin des femmes.
Voilà. Alors, à droite, ici, on est au jardin des hommes. Et à gauche, on est au jardin des femmes. C'est une association de femmes et d'hommes qui ont créé leur jardin commun, plus ou moins. Ils se partagent même les plants, etc. Et les jardins se sont agrandis.
C'est les mêmes plantes dans les deux jardins ou c'est des plantes différentes ?
Disons qu'ils ne cultivent pas de la même façon, mais ce sont les mêmes plantes. Ils cultivent différemment. Il y en a qui serrent un peu trop, il y en a qui serrent... Avec un peu de conseils, ils essayent d'écouter, mais bon, ils font quand même à leur façon.
Vous nous montrez un peu ?
Bien sûr. Alors là, c'est le jardin des hommes, hein, qui est en restanque. Donc, c'est les hommes qui ont refait les restanques, avec un peu aussi une association de Sigma qui a participé à la restanque, la première restanque. Les hommes ont fait l'autre restanque. Et le jardin des femmes est carrément derrière nous. Alors, le jardin des hommes est un peu délaissé parce qu'ils ont pris une grande parcelle derrière, où ils ont beaucoup plus d'espace, donc ils peuvent produire plus. Ils sont un peu moins nombreux que les femmes, bien sûr. Et les femmes, elles ont un très beau jardin, qui a un peu de tout. Il y a les pommes de terre, il y a...
On y va ?
Bien sûr qu'on y va. Alors, c'est vrai que les femmes, elles sont beaucoup plus attirées par tout ce qui est plantes aromatiques. Donc elles ont du thym, elles ont de la sauge, elles ont un peu de tout. Et il est un peu plus propre. Un tout petit peu, mais il y a de tout. Il y a du basilic, il y a du chou, parce que bon, ben, c'est-à-dire que ce sont des jardins qui sont partagés dans beaucoup de... C'est cosmopolite, parce qu'il y a un peu de tout. Hein. Donc, il y a les tomates, il y a les petits pois rampants, il y a les petits pois grimpants, il y a du basilic, il y a de tout. Chez les femmes, elles se sont branchées vraiment sur l'aromatisme.
Et ça sent super bon. Qu'est-ce qui sent bon, là ?
Ça, c'est du dotien. C'est un seringa qui est très très parfumé, il ressemble vraiment à la fleur d'oranger, au parfum. Voilà, bon, mais... Alors,
il y a beaucoup de légumes, mais il y a peut-être des fleurs aussi ? Pas trop.
C'est-à-dire que de temps en temps, elles se permettent de mettre un bouquet de fleurs à droite, à gauche, parce que ça agrémente le jardin, en définitive, ça fait un peu légumes, fleurs, puisque la femme, bon, même les fleurs, c'est normal, c'est logique, et tout se partage. Tout se partage.
Et on ne fait pas que travailler dans le jardin. On blague aussi, on raconte
non,
des
non,
histoires.
Justement, il y a de très très belles histoires qui se créent. En plus, elles se racontent des histoires de cuisine, des histoires de repas. Et de temps en temps, elles créent même un repas en communauté. Et bon, ben, nous, on participe un peu puisqu'elles nous invitent. Donc c'est agréable. Il y a des conversations qui se créent et très très gentiment. Et puis bon, ben même les femmes, des fois, de la maison, elles ramènent quelque chose à manger pour dire de faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques. Puis bon, comme je les aide un peu, c'est vrai qu'elles me rendent beaucoup.
Et comment vous avez appris, vous, à vous occuper d'un jardin ?
Mais je suis jardinier paysagiste de métier. Mes études, elles sont nordistes, puisque je suis un nordiste. Je suis diplômé d'État, donc automatiquement, moi, les jardins, c'est ma passion. C'est-à-dire d'essayer de faire beau. Mais en ce moment, malheureusement, je ne peux pas rendre le lieu agréable comme je le souhaiterais, puisqu'il y a énormément eu de travaux. Donc j'étais pris un peu par des travaux extrapolés, puisque je fais un peu du bricolage, je suis ici un peu comme intendant, donc je m'occupe un peu de tout et de tout le monde.
Pour vous, c'est plus agréable de vous occuper de ce jardin à la Gare Franche que de faire des jardins de villa ?
Ça n'a rien à voir. Une création, une vraie création et un entretien, c'est complètement différent. Des jardins en ville, bon, ben, c'est bien gentil, mais bon, ben, on crée quand même. Mais ici, on essaye de faire vivre tout le monde avec cette histoire. Et bon, ben, c'est agréable parce qu'il y a des associations comme fait partie Anifa, etc., qui sont très agréables, des personnes très agréables, qu'on peut appeler, on peut se compléter en définitive. Parce qu'il faut un complément. Comme ce sont des associations, il faut un complément. Si on a besoin de mes conseils, je vous les donne. Et bon, mais des fois, je peux en recevoir aussi, bien sûr.
Est-ce que Vlad, il vient parfois voir les jardins et est-ce qu'il vous donne des conseils ou des idées ou des retours sur ce qui se passe dans les jardins ?
Oui, bon, ben Vlad, je le côtoie très, très souvent même parce que c'est devenu un ami, parce que c'est une personne très, très intéressante. Et s'il me demande à créer quelque chose, j'essaye de le satisfaire. Et en contrepartie, lui, ce qu'il demande, c'est des choses un peu spéciales. Mais en définitive, c'est un côté rigolo des fois. C'est un petit culot qu'il a quand il place des fois des mots dans un jardin.
Qu'est-ce qu'il vous demande de spécial ?
Ben, par exemple, comme au cimetière des Chaises, c'est un environnement que, bon, ben, c'est spécifique. Bon, il faut mettre une porte et deux fenêtres. Mais en définitive, le résultat, je ne sais même pas s'il lui a plu parce qu'on n'en a pas parlé encore. Il l'a vu. Et puis bon, ben, hier, il était très pris puisqu'il était avec la radio, il était avec ceci. Donc, je ne pouvais pas me permettre d'interrompre quelque chose pour savoir si c'est satisfaisant ou s'il fallait compléter quelque chose. Voilà.
Donc, il y a des portes, il y a des fenêtres au milieu du jardin, comme si on ne savait plus très bien si on est dehors ou si on est dedans.
Voilà, c'est un aspect bon, mais théâtral, bien sûr. C'est d'idées, puisque c'est des courts-métrages, c'est des mini-films, c'est voilà, bon, mais et après il y a des visites guidées, tout ça, bon, mais ça chamboule un peu une vie quand on n'est pas artiste. Moi, je suis peut-être artiste en jardin, mais pas artiste sur un plateau.
Un jardin, c'est fragile. Si on arrête de l'arroser, il meurt. Vous avez confiance que le jardin, il va pousser, il va continuer, que
oui.
Tout le monde va s'en occuper.
Oui, on a conscience parce que bon, ben, même s'il y a quelqu'un d'absent, il y aura un suivi quelque part parce qu'on est quand même une équipe entière. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de chef, on est une équipe entière. Il y a un relais de partout. Alors ce relais, c'est la plus belle des choses parce que c'est l'équipe.
On écoutait Christian, le jardinier de la Gare Franche. Sur ce plateau, Irina Valipova est avec nous. Irina est comédienne, elle fait partie de la troupe qui interprète les boutiques de Canel. Mais en dehors de son travail et de son métier de comédienne, il lui arrive aussi parfois d'écrire des textes. Et en l'occurrence, elle a écrit un très joli texte qu'elle m'a fait passer il y a quelques jours, qui s'intitule « Je jardin ». Et je lui ai demandé de le lire. Irina, c'est à toi.
Oui, mais j'écris vraiment très peu de textes et je vais vous lire. Quand on m'a demandé d'animer le stage du jardin. Quand je pense au jardin et au jardinage, je me souviens du jardin de ma grand-mère paternelle qui vivait dans un village perdu des terres russes. Et où elle a élevé ses 10 enfants, qui sont ensuite partis dans les villages, mais qui toujours ont gardé cet amour de la terre. Ils l'ont transmis à nous, les enfants. J'ai passé pas mal de temps à la campagne chez elle. La campagne, qui déjà n'était pas si loin de la ville. Ma grand-mère a toujours gardé l'ancienne tradition de mode de vie. La maison en bois, sans eau ni lumière. Les champs du village, la rivière, son jardin avec le potager et le verger. Nous les enfants, on a contribué à aider les grands. On a cherché l'eau dans le puits profond du village, ou dans la rivière. Le seau cabossé était attaché avec une chaîne à la manivelle en bois. Quel bruit, quelle musique, quel son du métal et du bois. On allait au champ en s'amusant pour ramasser la bouse de vache et ensuite la mettre dans la terre du jardin. Quelle odeur perçante. Le jour se lève et avec ma tante Nure, on allait cultiver les tomates, les concombres, les pommes de terre, les courgettes, les fraises, les salades, les carottes, les pommiers, les cerisiers et bien d'autres choses. En automne, la terre nous remercie et nous donne tout ce qu'on lui a donné. Elle est brave, cette terre. Et puis, il faut se préparer pour l'hiver. Il faut faire les confitures, saler les concombres, le chou dans les tonneaux en bois. L'hiver arrive, la neige tombe, le jardin s'endort. La rivière est gelée. On descend dans la cave qui est creusée sous la maison dans la terre, notre seul frigo. Une lampe à pétrole à la main, les ombres bizarres nous suivent, comme les fantômes. Un peu de pommes de terre, le chou, les tomates, les cornichons salés, du beurre, et voilà, notre repas, sans oublier le poivre. Après nous être assasiés, les champs traversent l'obscurité de la nuit sous la pleine lune. Allez les enfants, au lit, faites les beaux rêves, demain l'école. Beaucoup plus grande, j'ai passé l'été avec mes parents dans une autre dacha déjà à nous, pas loin de Moscou. Mon père, déjà vieux, est resté toute la journée et la nuit observer ses plantes. Il a commencé à les cultiver en hiver, dans l'appartement de Moscou. On a eu partout les petits pots avec les petites tomates, les fraises, etc. Ma grand-mère avec ma mère, ma mère avec ma grand-mère s'occupait plutôt des fleurs. Et en habitant en France, j'ai souvent pensé à ma terre, aux odeurs, au son, à la lumière de cette belle nature qui m'a manqué. Le jardin est rentré en moi. Il est devenu mon jardin secret, mon jardin intérieur. Il apparaît de temps en temps dans la vie, et dans les créations, dans les personnages imaginaires du théâtre. Et je sais que chacun de nous a ce jardin.
Merci beaucoup, Irina, pour ce texte, cette lecture. Un texte que tu as écrit assez récemment, je crois qu'il est daté de cette année. Une grosse émotion, je crois, à le dire et à le donner. Donc je crois que je ne vais pas trop te demander plus de précisions. De toute façon, je crois que tout est dit dans ce texte et dans la manière dont tu nous l'as confié. En tout cas, juste préciser que tu as contribué avec Nelly et Vilma Lévy à animer de nombreux ateliers de théâtre avec les femmes qui sont aussi au jardin. Sans doute, d'ailleurs, elles sont venues voir les boutiques de Canel. Et en tout cas, on va maintenant écouter un reportage autour, justement, de ce jardin des femmes, avec notamment Anifa, qui est animatrice au centre social de Saint-Antoine.
Tu vas planter là-bas ?
Oui. On a essayé de voir des petits.
Où? Vous les mettre ici avec?
Je veux juste les mettre ici.
T'as un sachet?
Oui.
Des courgettes, ça?
Oui.
Ça, c'est courgettes. Ça, d'Algérie?
Non. Cet été.
Cet été? Jeudi prochain? Oui. L'après-midi, mercredi?
Je ne sais pas.
Si, mercredi l'après-midi, quand tu es au jardin ici, on va voir le spectacle. On va le voir, le spectacle, avec moi.
C'est une heure et...
Une heure et quart. De deux... Ah, ça commence à 3 heures. Ça commence à 3 heures. De 3 heures à 4 heures et quart. Ah, mais si, tu as vu de la scène et tout, tu ne vas pas venir voir le théâtre.
C'est
tu vas rigoler, on va venir la voir, elle. Mercredi prochain, je pense. Elle, le soir, non, elle viendra
après,
pas le soir.
Après, on ne sait pas, tu vois, quand... Après, je pars à Paris.
Ah.
On ne se verra plus, tu ne me verras pas. Ça me fera vraiment grand plaisir.
Hein. C'est que mercredi ou jeudi?
Mercredi, oui. Ou le soir, hein?
Le soir,
non. Mercredi, alors, toi?
Mercredi, l'après-midi, oui.
Bonjour, Anifa.
Bonjour.
On est ici dans le Jardin des Femmes.
Oui.
Comment est-ce que ça a commencé, cette aventure du jardin?
Ça a commencé par une visite guidée ici à Cosmos Colley, avec un groupe de femmes qui faisaient de l'alphabétisation, qui participaient au cours d'alphabétisation. Et elles ont fait cette visite guidée. Au cours de cette visite guidée, elles ont fait la connaissance de ce lieu, de cette vieille bâtisse avec ce parc, ce grand parc. Et en voyant ce grand parc, elles ont dit on pourrait jardiner là, c'est magnifique, c'est un peu... à l'abandon, il y a des terrains en friche, est-ce qu'on peut cultiver et faire un potager et l'aventure a commencé comme ça, quoi. L'équipe de Cosmos Colley a dit, eh ben, prenez ce bout de terrain, donc c'était un petit morceau d'abord, au départ c'était un petit bout de terrain, vraiment petit, petit à petit, elles se sont accaparées d'autres parties du terrain de Cosmos, et voilà, et c'est pas très grand, mais ça leur suffit à leur bonheur, quoi, à se retrouver ici, à partager des échanges de plantes, de comment planter la tomate, comment planter les courgettes, comment planter les pommes de terre. Il y en a qui s'y connaissent mieux que d'autres, d'autres qui apprennent, qui sont vraiment des personnes qui n'ont jamais jardiné, qu'ils ont à peine des souvenirs de leurs parents ou grands-parents, mais qui n'ont jamais participé à une activité telle que le jardinage. Et puis, après des hommes, là, en septembre, novembre, il y a eu une demande d'hommes aussi, d'envie de jardiner, et on a encore demandé à l'équipe de Cosmos Colley, et Cosmos a proposé donc cette restanque-là, un jardin en restanque. Et puis, ils sont moins nombreux, par contre. Là, les femmes, elles sont 8 à peu près. Les hommes sont 2-3. Et l'aventure, pour eux, a commencé là depuis peu. Mais ils ont bien rattrapé le groupe de femmes, puisqu'ils ont vraiment fait une très belle terrasse en restant pour pouvoir cultiver. Et puis, ils viennent régulièrement. Ils sont motivés. Il y a des échanges de temps en temps, mais c'est vraiment très timide avec les femmes. Il y a une solidarité, lorsque les femmes ne sont pas là, ils viennent arroser le jardin des femmes. Et vice-versa, les femmes aussi vont un peu regarder ce qui se passe de l'autre côté là, de la barrière, dire tiens, qu'est-ce qu'ils ont planté aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis, c'est des moments aussi pour elles de convivialité, quoi. Au travers du jardin, c'est des moments de rencontre, d'échange, de confidence aussi. Moins pour les hommes, mais pour les femmes, c'est vraiment... C'est vraiment ça aussi, de rigolade aussi, de se raconter des histoires, de se laisser aller, de se détendre, quoi. On décompresse. Les enfants sont à l'école ou travaillent, il n'y a personne à la maison et préfèrent venir s'aérer dans ce jardin au lieu de rester devant la télévision et passer un bon moment dans le potager. Et puis elles aiment ça et puis ça leur fait aussi une activité physique. Hein. Elle s'agite, on fait travailler tous les muscles, hein, les jambes, les bras, la tête. Donc voilà, et ça plaît bien à ce groupe de femmes. Et puis les habitants sont petit à petit au courant de ce projet-là et viennent nous rendre visite. régulièrement. Vous avez des femmes qui alors depuis qu'il y a l'entrée, la nouvelle entrée de la gare Franche, donc c'est plus accessible pour les habitants du plan d'Ao, puisqu'il y a une entrée qui est située vraiment en plein milieu de la cité, quoi. Donc on a des femmes, hier il y a une femme qui est venue nous rendre visite et qui a commencé à prendre le râteau, à faire semblant de travailler la terre et puis à nous questionner, qu'est-ce que vous plantez, qu'est-ce que vous faites là, vous retrouvez quand. On essaie de les motiver, d'agrandir le groupe en même temps, hein, parce qu'on essaie d'ouvrir ce groupe de femmes ou d'hommes à d'autres habitants, de donner l'envie à ces habitants de retrouver un peu des choses qu'ils ont un peu oubliées et puis de perpétuer aussi... De reprendre un peu la vie dans un jardin, de savoir planter des légumes, de pouvoir manger sainement avec des produits qui ne sont pas traités. Hein. On n'utilise pas de produits chimiques. Donc de manger des produits naturels. Parce que souvent, les mamans là, qui sont au jardin, je leur demande qu'est-ce que vous avez fait avec les fèves, qu'est-ce que vous avez fait avec les tomates, qu'est-ce que vous avez fait avec le chou. Et souvent, elles te répondent, ben j'ai fait un ragoût, j'ai fait un couscous, j'ai fait à la poêle, en friture. Puis après, je demande, les enfants ont aimé, ils ont apprécié. Ah, mes enfants, ils n'aiment pas trop les légumes, ils ne connaissent pas, ils ne mangent pas. Ils ont oublié quoi, cette alimentation-là, de manger des légumes comme ça, à même le jardin. Ils sont loin de tout ça maintenant. Souvent, elles me disent ils préfèrent le sandwich, le McDo. C'est des enfants qui sont souvent difficiles pour manger, pour leur nourriture. Ils sont assez difficiles, quoi. Moi, j'espère que, justement, au travers de ça, elles essaient de faire changer un peu les mentalités et de leur... Au revoir. Vous faites pas le bisou? Vous dites, vous partez comme des sauvages. Hein? Non? Pourquoi t'es fâchée, Chérifa? Pourquoi? Oh, c'était bien. Mais c'est pas moi la misère, hein?
On écoutait Anifa dans le jardin des femmes qui participent, comme je le disais tout à l'heure aussi, à nombre d'ateliers qui traversent la vie de cette gare franche. Nelly, Géraldine, Irina, peut-être quelques mots pour évoquer justement cette pratique théâtrale et les ateliers que vous avez mis en place et menés. Nelly, pour commencer. Nelly.
Beaucoup de choses ont été dites sur la façon dont moi je suis arrivée dans cette histoire, puisque c'est au travers c'est sur une proposition de Géraldine et Gwen, parce qu'il y avait de nombreux liens tissés avec la radio, que je suis venue faire les choses ici, à peu près depuis le début, hein, puisqu'on a fait des ateliers au collège Henri Barnier. On a commencé donc dans les extérieurs, pour le coup. Hein. Moi, j'ai commencé autour de Kursk. Voilà, c'était le premier spectacle qui se faisait à partir de la gare Franche. Et puis, donc, un atelier en extérieur de la gare Franche, dans le quartier, un autre bout du quartier, encore un peu plus loin que le plan d'Ao. Puis, on s'est rapprochés, on est venu faire les choses ici, à l'intérieur, dans un lien entre vraiment intérieur et extérieur, puisque c'était autour d'un projet qui liait images et sons. À partir du centre social, dans la cité du plan d'Ao. Donc moi, c'est la première fois que j'y suis rentrée, je crois, d'ailleurs. J'en avais entendu parler comme tout bon Marseillais qui se respecte, avec une réputation absolument épouvantable. Hein. Le plan d'Ao, c'était la cité où on ne pouvait pas mettre les pieds, c'était la cité où on se faisait égorger, etc. Puis moi, j'ai découvert une petite cité, somme toute. Une cité avec beaucoup de bâtiments qui étaient condamnés, et puis des petits bâtiments qui avaient poussé, qui sont plutôt pas mal, d'ailleurs, ça, qui sont les bâtiments nouveaux. Et là, donc, avec une réalisatrice image, on a fait un travail autour de 9 petites filles, je crois. Des petites filles d'une dizaine d'années, auxquelles on avait demandé de nous raconter la cité au travers de tout un choix un peu codifié comme ça, d'un lieu, d'un objet, d'un souvenir, d'un son. Et avec elles, on a fait un travail sur plusieurs semaines, presque plusieurs mois, de mise en espace et de prise de son et de prise d'image de moments de leur vie dans les lieux de cette cité. Et ça, c'était les extérieurs. On n'était pas encore dedans. Hein, on ne les amenait pas à l'intérieur. Et puis l'année d'après, doucement, comme ça, on a glissé vers l'intérieur. Et là, c'est donc un groupe de femmes qui est venu à l'intérieur, là, dans le jardin dans lequel on est, dans la maison. C'était dans la maison les premiers temps, parce qu'il faisait, je crois, pas chaud, si mes souvenirs sont bons. On s'était installés dans le salon. autour d'un verre de thé pour faire connaissance. Après cette visite guidée qui a été évoquée à plusieurs reprises, un groupe de femmes qui font de l'alphabétisation et avec lesquelles on s'est mis à parler très facilement d'ailleurs, le français. Et un superbe français en plus, un français qu'on a exploré pour ce premier travail qu'on a fait ensemble. Une langue qu'elles inventent et qui est superbe et avec laquelle on arrive tout à fait bien à communiquer. Et ça, c'était, ben voilà, on avait fait le cheminement d'un petit peu loin, comme ça on s'était rapprochés, puis on était à l'intérieur et puis on est en train de repartir vers les extérieurs.
Avec, je crois, un projet qui aura une dimension sonore. Dans le jardin, tu peux nous en dire deux mots?
Le projet, il a eu la dimension sonore depuis le début, puisque c'est quand même là que s'ancre ma pratique. Donc l'idée est de continuer à suivre le rythme des saisons avec ce groupe de femmes dans un lien, justement le lien dont parlait Géraldine, entre l'intérieur et l'extérieur, puisqu'il y a une plate-bande de jardin actuel qui est jardinée par les femmes et qu'il y a cette nouvelle plate-bande qui est de l'autre côté du mur. Alors là, on est vraiment au bas des pétrels. C'est ça. On est au bas des pétrels, donc tous les habitants du cosmos, j'allais dire oui, du cosmos, mais aussi du plan d'Ao peuvent voir cette nouvelle plate-bande de jardin qui va être jardinée par les hommes et les femmes. On est donc en train de passer à autre chose, hein, puisque ça, on ne va plus être a priori, tout ça, il faut que ça se discute, il faut que ça se cause, il faut que ça se mette d'accord. Puis moi, je vais suivre un peu toutes ces discussions, tout ça. Je vais essayer de faire en sorte que le son soit aussi un lien entre ce qui se dit une fois, puis ce qui peut se dire une autre fois, ce qui peut s'entendre différemment quand on l'entend avec 2 semaines de recul. Et je vais le faire entendre sur des enceintes comme on les a nous devant notre nez, là, sur ce plateau. Puis aussi, peut-être, dans des installations un peu plus un peu moins évidente à l'œil, et peut-être que les arbres vont parler, peut-être que les arrosoirs vont parler. Voilà, je vais essayer de faire dire des choses à des objets ou à des plantes.
Irina, Géraldine, en quelques mots, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, est-ce que vous avez eu des retours de la part de ces femmes à propos des boutiques de cannelle? Elles sont venues voir le spectacle. Est-ce qu'elles vous en ont parlé?
Elles ne sont pas encore venues voir le spectacle, mais elles vont venir bientôt, peut-être dimanche ou mercredi. En tout cas, comme j'ai voulu dire, comme Vladislav Znorko qui a dit, la culture, c'est agriculture. Et le personnage né par les petits bouts, comme aussi les grains on met dans la terre et qu'ils poussent. Et dernière fois, on est allé avec quelques femmes qui cultivent le jardin, et j'ai montré l'espace théâtral, j'ai montré les costumes, et en plus ils sont tous bric-à-broc, de récupérage, et c'était déjà familier, voilà, et on a même fait un petit essai qu'ils vont reconnaître quand ils vont venir.
Hélas, malgré tous nos butinages bucoliques, il va falloir que nous retournions au réel, un réel plus vrai que nature, qui nous est apporté par Pascal Messaoudi, qui a suivi la campagne de Marcus Hertz et le projet des maisons en chronolocation de l'agence Haussmann & Road. Aujourd'hui, c'est le boss qui nous livre le fond de ses noirs dessins.
Vous faites visiter aussi?
Non, nous on est plutôt de la fondation Haussmann & Road, donc la fondation qui sponsorise un petit peu les nouveaux modèles d'habitat urbain, qui finance les projets de jeunes architectes, etc. Donc, on n'a pas tout à fait à voir avec le promoteur, quoique ça va peut-être changer un jour, voyez-vous. Parce que bon, vous avez vu, les promoteurs sont un petit peu âgés, un petit peu sur...
Tout à fait.
On sent un peu l'aigreur dans leurs propos et pas tout à fait prêt à...
J'ai remarqué que la plupart de ceux qui ont visité, ça prend pas vraiment en fait.
Bah oui, on sent.
Alors est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est Marseille? Les Marseillais ne sont pas prêts à accrocher avec ce genre de concept? C'est une question d'âge, c'est quoi?
C'est ça, je crois que les gens sont pas prêts totalement ici à la mobilité, quoi. Partout où on passe d'habitude, les gens sont prêts, les gens commencent. Vous avez vu les photos peut-être des cités à Paris, Bruxelles et tout ça, et les gens se déplacent, vont vraiment de ville en ville. Après ici, peut-être qu'ils sont un peu trop ancrés sur leur terre, peut-être qu'ils ont plus... pas envie, non. Puis vous savez, c'est le sud, hein. Enfin moi, je connais pas trop le sud, mais
sont, les gens sont un petit peu, c'est pas une légende, quoi, un petit peu mou, un petit peu feignant, pas trop envie de bouger. Veulent trop rester chez eux, vous avez entendu.
C'est un concept pour les actifs, vraiment.
Ah oui, oui, bah, c'est un nouveau mode de vie.
Et quoi. Le Sud, ils ne sont pas assez actifs. Bah,
oui,
bah,
j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un train à prendre, c'est maintenant qu'il faut le prendre, le train, mais voyez-vous.
C'est sûr que si vous leur parlez comme ça, peut-être que c'est difficile.
Non,
pour
mais il y a un train
aussi,
à prendre. Moi, ce qu'on dit tout le temps, c'est les gens qui étaient trop attachés à leur terre, à leurs racines, regardez dans le Nord, chez Moulinex, des choses comme ça, des gens qui n'étaient pas prêts à bouger, quoi. Gens qu'on. Pour acheter des maisons qui se sont endettées sur des trentaines d'années, etc., etc. Et bien maintenant, les usines fermées, maintenant, leurs crédits, ils en sont où? Les gens ne peuvent plus payer, ne peuvent plus se permettre de ça. Alors qu'il y a qui? Toujours dans la mobilité comme ça, un jour à Bruxelles, le lendemain à Marseille.
Oui, je ne suis pas là pour la promotion. J'essaye d'interroger
non plus,
un peu.
Je
ne
suis pas là pour la promotion, je ne suis pas là pour la promotion. Je suis là pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est inévitable maintenant, de toute façon, ce genre de maison. Oh, celui-là. C'est votre cousin, monsieur Belleville, celui-là, c'est ça? Il est de votre famille ou quoi, là? Non, mais... Oui, mais il faut... De quoi? Qu'est-ce qu'on disait?
Non, on parlait des gens du Sud.
Ouais, non, mais après...
C'est... C'est sûr que peut-être en considérant comme ça, c'est peut-être aussi une autre façon de voir. Là, vous faites une comparaison avec les gens du Nord et du coup, ils sont moins actifs. Enfin, je sais pas. Évidemment,
oui,
ça
bon.
Va créer des frustrations. Et je pense que
je
vous
avouer que dans le Nord, enfin dans les villes un peu plus au Nord, les premières fois qu'on s'est implanté, c'était pas hyper facile non plus, quoi. Mais ça commence, les gars.
Alors, qu'est-ce qu'il faut ici? Comment vous voyez la chose? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ça prenne la sauce?
Mais ça va venir tout seul, comme d'habitude. Vous savez, les gens s'habituent à tout, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein? Ça, c'est... Les gens s'adaptent, hein? Ça, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils seront bien obligés un jour d'arriver, d'y aller dans cette direction.
Pour l'instant, vous n'avez pas de commande, rien, là?
Non, alors ça, il faut voir avec les promoteurs, parce que c'est plutôt eux qui voient. Je sais pas si au niveau du site internet, je sais pas...
Est-ce que vous pensez que c'est amené encore à évoluer ce concept? Qu'est-ce qui manque à ce concept pour être à sa phase finale?
Phase finale, il n'y a jamais de phase finale. Ça, ouais. C'est en perpétuelle évolution, ce genre d'habitat.
Qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui pour aller encore plus loin?
Moi, je sais pas, j'ai quelques idées. Pour l'instant, je les garde un peu pour moi. Quoi. Mais bon, vous voyez, là, c'est un peu vide, c'est un peu... Pour tirer les tarifs vers le bas, moi, ce qui me plaira assez, vous voyez, c'est genre sur les pignons devant, là. Sur les pignons, c'est mettre un peu de pub, de la publicité, faire des choses comme ça. Si ça peut tirer les tarifs vers le bas, vous voyez, ça, de toute façon, maintenant, on est quoi qu'il arrive et n'importe où, on est des sponsors ambulants, quoi. Donc, il faut vraiment... Ça, c'est pareil, hein, il faut...
Ça serait moins cher pour le consommateur ou ce serait plus...
Vous savez comment c'est, hein, tout le monde... Le tout, c'est que tout le monde s'y retrouve, comme d'habitude. Bon.
Merci beaucoup, en tout cas.
De rien.
Monsieur Sylvain.
Merci à Géraldine Garnier, Irina Valipova et Nelly Fleischer pour leur participation à ce 5e plateau. On fait une petite pause et on se retrouve mercredi pour la prochaine émission à la Gare Franche dans le cadre de cette thématique Gare des Nord. Cette prochaine émission, c'est Qu'est-ce qui s'ouvre à la Gare Franche et ce sera un débat mené par Marc Voiry.